France Inter.
Et oui, c'est la bande originale avec Lina Kadokoudadis, avec Lisa de Poitiers, avec Amélie Lavabre, Bruno Péguy, Ol de la, Tanguy Bastion, Daniel Morand,
vous, Camille.
Coucou Daniel.
Et nos invités Mélanie Douté et Lucie Fajdet.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Mélanie Douté pour une des nombreuses fois.
Et on est toujours,
on ne les compte plus et on est ravis toujours de vous accueillir. Vous le savez, toute admiration que nous avons également pour Lucie Fajdet qui est bluffante dans cette série L'Intruse. Bonjour. Lucie.
C'est
que
sa
vous
première,
connaissez en fait. Sa première bande originale avec des années de parents mode d'emploi.
Oui, c'est ça, pendant 7-8 ans je crois.
Les gens vous arrêtent dans la rue en vous parlant de la série.
Que ce cas, moi aussi. Alors, pendant une longue période, ça a été du coup par mode d'emploi. Maintenant, c'est Scam France, donc une série que j'ai, dans laquelle j'ai tourné
carton.
Pendant 3 ans. Ouais.
Bah ouais, carton plein. Et L'Intruse sera un carton, c'est annoncé. Ça sera, c'est déjà en intégralité sur France.tv. Je crois qu'on
tout
peut voir
ça.
Les 4 épisodes déjà sur Internet. Et sinon, ça passera ce mercredi.
C'est un peu ce soir.
C'est marrant parce qu'il y a marqué le 5 et on est le 5.
Et ouais, ça tombe bien. 21h10 sur France 2.
Et toujours dans la découverte, Nagui, il est bien.
Il y a deux.
Il est très mu partout et n'importe quoi. Il est resté frais.
Il y a deux épisodes. Le premier et le deuxième.
C'est chic, Nagui.
Pas ce soir. Il faut savoir compter. Ça s'appelle L'Intruse. C'est une histoire de nounou et de fille au père. Est-ce que vous avez eu des soucis ou pas, chacun, chacune, avec des filles au père? Ou est-ce que vous avez été vous-même fille au père? Que sais-je, Lisa?
Non. Moi, ma mère est prof et du coup, elle engageait ses élèves.
Pour te garder.
Ouais. Et du coup, ils avaient la pression de bien me garder. Et donc, ils faisaient des dingueries, ils se déguisaient parce qu'ils voulaient impressionner la prof. Donc, j'ai eu plein de chouettes nounous.
Que des bons souvenirs. Ouais. Camille,
pas d'anecdote, désolée.
Tu n'as jamais été fille au père ou nounou?
Mais je voulais être jeune fille au père, je voulais partir aux États-Unis, mais bon, ça a duré 10 minutes, quoi. C'était dans ma phase de j'ai 18 ans, je sais pas quoi faire. Je veux aller faire du théâtre à Paris, mais c'est trop cher. Qu'est-ce que je peux faire à la New York? C'est encore plus cher. Bon, voilà, c'est bon.
Ouais.
Fin de l'anecdote.
Leïla, tu as été déjà nounou, toi, ou pas?
Non, jamais.
Jamais?
Non, et je pense que personne ne veut me confier.
Et tu as eu pourtant, si.
Personne n'a voulu me garder non plus. Non. Ma mère me gardait.
Mais est-ce que tu as eu des problèmes avec des filles au père ou des nounous?
Non, vraiment. Toujours des personnes chouettes.
C'est vrai?
Ouais, vraiment.
Ah, toi, t'as eu du mal.
Ouais.
Bruno?
Non, moi non plus. Là, pendant le
qui
tour
te
de
garde
table,
en ce moment,
je me disais que c'est vous, en fait, chaque mercredi. Et c'est papa et maman, quoi, en fait. Vous êtes pas au courant?
On est là, mon chat.
Non, j'ai pas d'équipement qui soit propre.
Non, par contre, Daniel, vraiment, il peut pas s'occuper de moi. Il a une mesure avec
j'ai
lui.
J'ai pas le droit.
Bah, il a un bracelet électronique, hein, c'est pas pour rien. Donc, est-ce que des histoires de filles au père?
Non, j'ai pas d'anecdote. Je me sentais mal de parler d'anecdote, mais je suis la 4e personne à avoir une anecdote nulle. Donc, je me dis que c'était de la question, quoi, qui est pas.
C'est le sujet. C'est le sujet de la série.
Oui, bien
L'Intruse.
Non, je dis pas que le sujet de la série n'est pas intéressant. Ne pas dire ce que j'ai pas dit.
Et deux, moi j'ai une histoire de nounou incroyable, c'est-à-dire qu'elle était non seulement Marie, je crois que la vanne est faite avec Mary Poppins hein, dans la série. Elle était Mary Poppins, c'est-à-dire qu'elle était drôle, sympa, elle se proposait d'aider même pour ce qui n'était pas une nounou qui s'occupait de mes enfants. Et puis d'un coup, on se dit mais t'as pas vu le bracelet que j'ai posé là sur la table? Bah non, je l'ai pas vu. T'as pas vu le non? Et puis d'un coup, t'as le flip et puis tu sais pas trop, tu sais que t'avais de la monnaie dans ton jean, mais tu dis mais non, c'est pas possible quand même. Et on fait le truc basique, c'est-à-dire de compter précisément la somme qu'il y a au centime près dans la poche du pantalon pour voir si le lendemain. Et le lendemain, donc, il y a évidemment un billet 10 euros et un autre de 20. C'est très malin parce que c'est pas tout d'un coup, c'est juste un ou deux billets comme ça qui est retiré. Et je me souviens être allé voir la nounou en lui disant, je suis désolé, désolé, mais je crois qu'on a un gros problème. Vous êtes parfaite dans votre boulot, mais vous êtes en train de piquer de l'argent. Et là, elle fait non, j'ai rien volé, je vous jure. J'ai dit, écoutez, il y avait des billets là, il y avait une cinquantaine d'euros en billets de 20 et de 10, et vous avez retiré un de 20, un de 10 discrètement. Non, non. Et là, elle commence à se déshabiller en disant, mais fouillez-moi, j'ai rien sur moi. Et
voilà, gênant.
Comment? Ouais, exactement. Ouais. Gênant parce que d'un coup, tu fais. Waouh, mais c'est peut-être moi qui ai pété un câble, qui est mal vu, mal compté, mal ceci, mal cela. Et après, elle avait une malice. Je vous donne sa malice parce que ça peut être très utile pour plein de gens. En fait, quand elle arrivait le matin, elle piquait l'argent ou elle piquait des objets, elle le mettait dans le sac poubelle et le sac poubelle, elle le mettait par terre en disant, tiens, je sortirai les poubelles. Et elle récupérait ce qu'elle avait piqué dedans. Voilà, c'est pour ça que vous avez des vies
très calmes.
Très calmes.
Avec des gens super.
Et vous avez de la chance, vous.
De tous les gens super. Super.
Oui, voilà. Ouais. Daniel, t'as eu des problèmes de nounou ?
Non, non, mais moi je gardais une gamine. C'était la fille d'une prof en Belgique. Ça s'est hyper bien passé. Je la mettais à la cave et après elle me foutait la paix.
Moi, avec une babysitter qui avait fait des blagues à mes enfants qui s'étaient déguisés pour leur faire peur. Et ça avait marché. Donc on les a retrouvés en pleurs, terrorisés à la maison.
Ah, c'est bon ça.
Tanguy ?
Non, j'ai vu trop de films américains aussi avec des babysitters maléfiques ou des nounous folles. Ouais. Et du coup, ça m'a. Donc je garde.
HD, quoi. Le personnage de
Lucie. La main sur le berceau, évidemment, c'est la ref ultime.
Ah oui, la main sur le berceau est grave. Ouais. Même jeune fille cherche appartement aussi. Hein,
mais chanson 12.
Comme ça.
Chanson 12 de Leïla Slimani, et puis elle a porté sur l'écran avec Karim Viard.
Exactement.
Ça va très très loin, là, par contre. C'est vrai, c'est vrai.
Mais un sujet. Des enfants chiants, quand
même. Un sujet palpitant, extrêmement bien interprété, réalisé. C'est à la fois un film de suspense. Et aussi d'émotion. On va pas trop en dire, trop dévoiler. En tout cas, Lucie, Mélanie, vous avez un fan numéro 1. Ah c'est Hold the Laugh.
Au départ.
Wow! Et bien, je vais le faire au piano. Voilà.
C'est
un gag. Quel effet.
Il sait tout faire.
Oh là là. Wow.
Et c'est MacGyver.
Il a un triangle si le piano marche pas.
Je suis fan de Mélanie Douteil. Je suis fan depuis que vous m'écoutez. Votre père est une star, il a fait des merveilles. Je l'adore, c'est le chanteur Yves Douteil. Je suis fan de Lucie Fajdé. Mais Fajdé, c'est pas son nom en vrai. J'ai cherché son nom complet, c'est Lucie Full HD. C'est une actrice qui joue qu'en super qualité. Et vous êtes là ensemble pour la série L'Intruse, sur une jeune fille au père qui manie gance et ruse. Daniel rêve d'avoir une jeune fille au père aussi. Il l'écrit pas pareil, je crois qu'il a pas compris. Ouais, je suis fan de Lucie Fajdé. J'espère que vous m'en voulez pas tout à l'heure. Je déconnais, votre nom c'est Fajdé. Je l'avais pas très bien dit, mais votre prénom est déjà bien célèbre, lui. Lucie, c'est moi, tu vois. Il y a des matins comme ça où tout est cool autour de vous. Sous le chien de Leïla, Lassie. Oui, elle s'appelle comme ça, un chien qui pue et qui aboie. C'est une espèce de bâtard, un teckel Saint-Bernard. Il y a tes croquettes qui arrivent. Il y en a quasiment une livre. Une livre, c'est une dose cadeau. Oui. Les chiens, je suis pas pour. Ouais, je suis fan comme Obispo, j'ai aimé Lucie. Et je suis fan car comme France Gall, j'ai Mélanie. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Paul de là.
Sur scène, Hold the Laugh, dans le domaine de Cadour à Poitiers. Et après, ce sera à Strasbourg.
Ce soir.
C'est ce soir, Poitiers.
Ouais, oui. Ce soir.
Mon Dieu.
D'ailleurs, il y va maintenant.
T'as intérêt à cartonner.
Ah, je vais cartonner.
Sinon, toute la famille de Leïla va te parler.
Ah, ouais.
L'intruse, cette série avec Lucie Fajdé et Mélanie Douté. Pour partir du point de départ de cette série, vous êtes une maman de plusieurs enfants qui craque. Ouais, c'est ça, qui craque, qui se fatigue sur le troisième. Autant elle a un peu sacrifié et été très présente visiblement sur les premiers enfants, là le dernier l'épuise, elle a besoin d'une fille au père. Ça commence par des CV et des rendez-vous entre un mari qui est plutôt en train de scroller sur son téléphone que de s'intéresser vraiment à l'entretien de la fille au père ou
Éric
Caravaca,
ou
ouais. Voilà.
Ouais. Puis elle reprend le travail, surtout c'est pas tant pour l'alléger, c'est qu'elle veut reprendre sa vie professionnelle.
Exactement.
Qui a beaucoup bougé, même le bureau a été déplacé, elle se retrouve dans des conditions.
Oui, c'est passé plein de trucs pendant mon congé mat, j'ai plus mon bureau et je travaille avec une jeune.
Et non, mais le sentiment de ne pas pouvoir gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et pareil aussi la présence du mari qui d'accord n'a pas été forcément là pour aider au début et qui dit bah non, c'est mon tour de m'occuper aussi de la petite, mais on va quand même prendre une fille au père, c'est ça?
Oui, en fait on essaye d'alléger mon quotidien avec l'arrivée de Lucie Fajdé, de Tess, la nounou dans la maison. On s'est un petit peu planté sur le choix, mais est-ce qu'on a vraiment eu le choix, je ne sais pas, mais oui c'est ça. En fait, mon personnage il est un petit peu crevé. Je pense que ça a été un deal avec mon mari, c'est de reprendre la vie comme avant parce que j'ai deux grands enfants. Je sais, je les fais pas, mais qu'on 15 ans. Ça filoche. Et du coup, voilà, je pense que le deal c'était
on va reprendre. Vous venez d'accoucher, c'est incroyable. Hein,
j'ai pris
quelle ligne.
Vous êtes en... Moi, je mange, je prends pas.
La meuf agaçante.
C'est insupportable. Mais c'est pas du tout le sujet.
Non, je viens d'accoucher, je remets mon jean. Et alors, où est le problème?
Et donc je décide de reprendre le travail et l'arrivée de Tess en fait va faire que elle exécute tout à la perfection ce que je lui demande de faire et en fait ça va me ramener à mes imperfections.
Marie Poppins, c'est ça.
Exactement.
Elle est parfaite et même la phrase est dite par les ados, c'est-à-dire elle est mieux que maman. Elle fait la cuisine, elle est sympa, elle est.
Disons que elle fait tout pour se rendre indispensable aux yeux de cette famille. Elle, ce qu'elle a envie, c'est de se faire adopter. Oui. Donc en fait, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour être acceptée auprès de cette famille.
Et d'ailleurs, elle en fait tellement que la première qui a la puce à l'oreille, c'est la maman. Parce que, évidemment, tous les autres membres de la famille sont sous le charme. Elle est sympa, elle est jeune, elle est rock'n'roll. Il n'y a aucune ambiguïté de jeu de séduction avec les uns ou les autres. Il n'y a pas de truc pervers sexuel, c'est simplement...
Non, ce ne sont pas deux femmes rivales. C'est voilà, ça aussi qu'il y a de bien dans le scénario.
Ce n'est pas dans la compétition vis-à-vis du
exactement.
Mari. Exactement. Ouais. Mais vous avez d'abord la puce à l'oreille. Et on voit, d'ailleurs, la série s'ouvre sur une scène où on ne sait pas pourquoi, mais vous êtes interpellé par la police et on a ce plan, et là on comprend qu'on rentre plutôt dans un thriller, on a ce plan de la nounou à la fenêtre qui tient le bébé en le rassurant, en le câlinant, mais avec un regard qui en dit long.
Oui. Bah après c'était.
Non, aussi... débrouille-toi avec ça.
Merci bien.
Ouais. Non mais c'est le regard de Terminator même. Hein. Il y a des moments où votre personnage semble complètement robotique, très angoissant.
Ouais, ça a été travaillé avec la réalisatrice Shirley Monsara. C'était vraiment de créer une identité du personnage, aussi bien au niveau du maquillage, de la coiffure.
Ouais.
À tous ces aspects-là, et aussi au niveau de la posture, il faut qu'elle se tienne très droite, rien n'était laissé au hasard, quand est-ce qu'elle cligne des yeux, quand est-ce qu'elle se tient droite, les épaules baissées, rentrées, enfin vraiment, ça a été tout un travail presque chorégraphié.
C'est une chorégraphie.
Ça a été vraiment une chorégraphie.
Et les cheveux tirés comme ça.
J'avais une bombe de lac tous les jours dans les cheveux, vraiment. J'avais un blond à la Philippe Lucas, enfin c'était vraiment, ça a été quelque chose.
Du beau blond.
Un beau blond.
On
sent l'ancienne nageuse.
Ouais, c'est ça.
Pour la référence.
Mais ouais, ça a été un réel travail avec la réalisatrice. Et aussi, ça a été de se laisser porter par son regard à elle, parce qu'elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait. Donc j'avais aussi en partie à me laisser porter par son regard à elle.
Donc il y a cette intruse, le titre est très précis. Elle vient comme un chien dans un jeu de quilles en se disant, mais évidemment, elle est parfaite. La seule qui est la puce à l'oreille, c'est cette maman qui culpabilise aussi en se disant, mais peut-être que je fais un baby blues, peut-être que c'est une dépression post-partum. postpartum. Enfin, il y a tout vient excuser le ressenti. Il y a même des entretiens avec des médecins pour ça.
Oui, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est toute cette introspection en fait que vit mon personnage. C'est-à-dire que plutôt que d'accuser d'abord l'autre et de passer par l'accusation, elle va d'abord s'accuser elle-même. Mmh. Elle va vraiment être en introspection. Elle va se dire, mais en fait, j'y arrive pas. La culpabilité d'une mère qui décroche avec ses ados, mais c'est pas de sa faute, c'est les ados aussi qui décrochent. Désolée de le dire.
Évidemment. Mais parlons-en de cette poussée hormonale, ok?
De cet enfant qu'elle doit allaiter, mais donc elle doit tirer son lait au bureau, enfin, tous ces gestes de jeune maman. Jeune maman.
De contraintes et de devoirs.
De devoirs, et puis.
Il faut que j'assure.
Exactement, il faut que j'assure. Même au bureau, on me dit, t'as pensé à quoi pendant ton congé mat? Non, un congé mat est normalement consacré à la maternité.
Ouais,
et
il y a congé dans le mot.
Il y a congé dans le mot, exactement. Donc, enfin voilà, c'est plein de petites injonctions comme ça que je me prends et qui vont faire que je me trouve à ma place nulle part et que j'ai l'impression d'échouer dans tout.
Mmh. Un véritable suspense, en tout cas, tenu en haleine avec les fameuses accroches, les cliffhangers. Il n'y a pas d'autre terme. Hein, quand on est dans un suspense en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va mal tourner si ça tourne mal? Ou quelle est la véritable motivation des uns et des autres? Et comme dans toutes les familles, il y a un secret. Et ce secret est le moteur, en tout cas, que vous allez découvrir dès ce soir, 2 épisodes, et la semaine prochaine, 2 autres épisodes. C'est une réussite, L'Intruse. Mais, Lisa Delmoitier n'aurait pas fait ça comme ça. Voici Lisa. Elle est perdue, t'aurais pas du tout fait ça comme ça, toi.
Non, mais non. Erreur des débutants d'engager une jeune fille au pair. Déjà, parlons même pas du cas où c'est une psychopathe comme ici, mais de base, moi j'ai une règle. Si je fais entrer une nounou dans ma famille, dans mon couple, ben elle doit être un homme déjà, plus de 70 ans et qui a un physique à faire de la radio. Autant dire que si la jeune fille au pair ressemble pas à Depardieu en lendemain de réveillon, elle dort pas chez moi. C'est pas contre les nounous qui souvent font très bien leur travail, mais je connais les mecs. Ben Affleck, Jude Law, Ethan Hawke, tous ils ont bousillé leur famille en séduisant la nounou.
Mais non.
Et on me dit, mais Lisa, t'inquiète, toi ça t'arrivera pas. Pardon, mais je crois que si Jennifer Garner, Sienna Miller et Uma Moneyfucking Thurman se sont fait tromper pour la babysitteuse, je crois que Lisa Desmoitiers a du souci à se faire. J'ai décidé de parler de moi à la troisième personne dorénavant. Je parle de moi à la troisième personne, voilà. Je trouve que j'ai une relation un peu toxique et obsessionnelle avec moi-même en ce moment, donc j'essaie de mettre de la distance entre moi et moi. Enfin, Lisa des moitiés, mais de la distance. Je passe trop de temps avec moi. Et il y a des soirs, j'ai envie de faire chambre à part. Mais bref, dans la série. Sans spoiler, donc on est sur un autre type de menace encore plus inquiétant. Votre personnage, Lucie Fajdé, on l'a dit, est une fille au pair flippante. Déjà, elle est d'accord pour être avec la famille tous les jours, même le dimanche. Alerte. Quelqu'un qui veut toujours te voir, c'est un red flag. Ouais. C'est pour ça que mon nouveau mec, je pense que c'est le bon. Il veut bien me voir tous les 3 mois. Elle adore les enfants aussi. Deuxième mauvais signe, il faut toujours se méfier des gens qui adorent tes enfants. Croyez-moi, c'est la Belge qui vous parle. Elle a des trucs et astuces pour calmer les bébés, comme le bruit du sèche-cheveux.
Ouais,
tiens,
ça, oui.
Si ça marche, c'est décidé, j'ouvre un salon de coiffure avec des jeunes filles au pair / coiffeuses. Hein. Elles s'occupent de ton gosse tout en coupant tes cheveux. Bon, salon de coiffure oblige, je l'appellerai jeune fille au pair. Ça passait mieux à l'écrit, mais enfin bon.
Et en anglais.
Ouais, bon, bref, beaucoup de difficultés. Cela dit, je comprends le besoin d'avoir une fille au pair à la maison, évidemment. T'as tes enfants, la charge mentale, le travail, tu craques, t'as besoin d'aide extérieure, mais tu peux mal tomber. On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et je pense vraiment que c'est vrai. Le problème, c'est que dans chaque village, il y a un fou. Voilà. Et là, c'est vous, Lucie, hein, et la maman que vous incarnez, Mélanie Doutet, le sent. Elle le sent, ça, les mamans. Hein. Moi, j'ai toujours dit, face au danger, une daronne, c'est un cochon truffier. Mais on lui dit qu'elle est parano, que c'est dans sa tête, c'est le postpartum, c'est la chute d'hormones. Oui, oui. Ah, ils ont bon dos, les hormones féminines, quand même. Hein. Féminin oui. Bref. Leïla.
Une hormone.
Bon. Dès qu'on comprend pas un truc, c'est les hormones. Hein. Les hormones, c'est le nouveau dieu. Voilà. Oh mon dieu, il y a de l'orage dehors. Mais non, t'as juste trop de cortisol, non, t'es sûr? Moi, j'ai mes doutes sur l'existence de Dieu et je commence à douter de l'existence des hormones féminines. Enfin, en tout cas, de leur impact, quoi. Écoutez les femmes au lieu de dire que c'est leurs hormones. 9 fois sur 10, tu t'énerves sur ton mec, il te sort, mais c'est parce que t'as tes règles. Non, c'est parce que t'as baisé la nounou. Voilà. Et la médecine, n'en parlons pas. Tu vas chez le médecin, tu dis que t'as pas le moral, c'est les hormones, t'es fatigué, c'est les hormones, tu grossis, c'est les hormones, ta nounou est une folle dingue, c'est les hormones. Non mais docteur, vraiment, je saigne de la tête là. Le corps de la femme, quel mystère. Moi je dis, écoutez les femmes quand même, cherchez un peu quoi. Quand elles disent qu'il y a un problème, parfois il y a vraiment un problème, c'est dit. Voilà, je m'arrête ici, enfin, Lisa Desmoitiers s'arrête ici.
Lisa Delmoitié, ses hormones.
Les hormones. Ah, hormones,
c'est pas grave, mais c'est
joli. C'est joli.
L'instinct maternel est questionnable, puisque votre personnage, dès le départ, dans l'intruse, Mélanie Douté, est enthousiaste.
Oui, au début,
la première rencontre.
Oui, je la trouve parfaite. Elle est sur tous les angles. Elle a l'air douce. Elle arrête de faire pleurer mon enfant.
Vous avez fait dire elle est jolie et vous l'avez retirée.
En plus, elle est jolie.
Non, elle est jolie, mais il n'y a pas de compétition entre ces deux femmes.
Non, pas du tout.
À aucun moment.
Non, absolument pas. Non, on se bat pas du tout pour. Enfin, il n'y a pas de combat entre nous, quoi.
Il n'y a pas un combat de séduction ou de charme.
Hein. Bah, surtout en fait.
Non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est ça par rapport à toutes ces stars. Oui. Je savais pas qu'ils étaient aussi nombreux à être partis avec la...
C'est que des Américains.
Avec la nounou.
C'est vrai, ça ne trompe jamais.
Pas que nounou.
Mais d'ailleurs, quand on a fait le tour de table tout à l'heure, je n'ai pas demandé si vous aviez des souvenirs de filles au père ou de nounou qui vous avaient marqué, Lucie.
Bon, j'ai fait un petit peu de babysitting, je pense que comme beaucoup de gens, mais non, ça s'est toujours très bien passé, les enfants étaient cool.
Et vous n'avez pas eu, vous, de filles au père ou de nounou qui vous avaient gardé?
Non.
Mélanie Douté, vous avez un souvenir particulier d'une...
C'était la réunion des parents élèves et j'avais plus de nounou et donc je trouve une copine, une nana qui doit s'occuper de ma fille pendant, je sais pas, 3 heures. Donc elle va au parc, je suis à la réunion, je sais pas si ça vous arrive, mais à partir du moment où on est devant un professeur de notre enfant, on est de nouveau élève.
Carrément, on s'assoit sur le banc.
Et je vois mon téléphone qui s'allume avec le nom de la babysitter et puis au bout d'un moment, je suis désolée, madame le professeur, j'ai obligé de décrocher. Et là, la nounou en larmes, ils ont changé les clés de la serrure, ils ont changé les clés de... Ah, mais pourquoi ils auraient changé les clés de la serrure? Ah, c'était trompé d'étage.
Surtout la panique.
Je ne l'ai pas rappelé. Je ne l'ai pas rappelé.
Pourtant, vous avez le numéro. Et donc, elle a toujours votre enfant. Hein. Donc, vous avez cette intruse, à partir du moment où elle a la puce à l'oreille, et cette maman, elle va presque tomber de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire elle va devenir enquêtrice, elle va devenir espionne, elle va chercher à prouver au monde entier que c'est elle qui a raison, puisque le monde entier est contre elle.
Oui,
mais surtout elle va chercher à comprendre qu'elle n'est pas folle, enfin qu'elle n'est pas juste parano et qu'elle n'est pas...
Oui, mais elle a besoin qu'une autre personne la comprenne pour être rassurée.
Oui, bien sûr.
Que ce soit sa psy, ses propres enfants, son mari...
Ah ben tout le monde l'accuse, mais c'est elle qui a besoin de comprendre pourquoi, et c'est cet instinct maternel qui va lui donner cette force extraordinaire. Je pense qu'on on peut soulever, écarter la mer en deux.
On comprend. Moïse. Entre ici, Moïse. Tu es le bienvenu.
Mais elle est accusée. On peut dire qu'elle est véritablement accusée, qu'il y a une véritable affaire.
Oui, totalement. Elle se retrouve accusée de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Et donc, connaissant son innocence, elle va essayer de la prouver par tous les moyens.
Déjà, les affaires qui naissent, et ça, on le voit, puisqu'on a un train d'avance par rapport au personnage de Mélanie Douté. On voit, Lucie, que c'est vous qui commencez à préparer, à en tout cas installer différents pièges dans la maison, uniquement dressés sur la maman et sur aucun autre membre de la famille.
Oui, parce qu'en fait, au début, comme on disait tout à l'heure, c'est que au début, le personnage de Tess est pas du tout mal intentionné. Elle, son but, c'est d'appartenir à cette famille, et c'est vraiment un côte à côte qui devient un face à face lorsque justement le personnage de Mélanie aura des doutes sur elle, parce que elle a vraiment envie de faire partie de cette famille.
Donc là, elle se dit, j'ai une ennemie dans la
maison. J'ai une ennemie dans la maison, donc en fait, mon but, c'est de l'évincer pour rester dans cette famille, à tout prix.
La scène du bain, je n'en dis pas plus, mais la scène du bain est totalement...
Cauchemardesque.
Ah, mais totalement dingue. Je pense qu'il n'y a pas un seul parent qui n'a pas eu ce cauchemar-là. Et ça devient l'un des moments de tension et de bascule de cette série, mini-série, mais grande réussite. Ça s'appelle L'Intruse. C'est ce soir sur France 2. Voici Camille, là-bas. Oh.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Camille.
Bon, on va pas se mentir, autour de cette table, on est tous un peu dans le showbiz. Donc j'imagine que vendredi soir dernier, certains d'entre vous ont revêtu leur plus beau smoking, leur plus belle robe, pour aller s'entre-congratuler dans le 9e arrondissement de Paris. Et pour ceux que Lisa n'avait pas invité à sa soirée cinéphile échangiste L'Amour Touffe, il y avait aussi les Césars.
L'Amour Touffe.
Personnellement, les Césars, je les ai regardés à la télé, et je suis donc tombée sur le discours très émouvant de Karim Leclou, qui venait de remporter le César du meilleur acteur. Ouais. Voilà, superbe. Alors vous me direz, c'est facile d'être émouvant quand on le regard d'un bichon maltais sur une aire d'autoroute. Mais Là, je dois dire que j'ai été particulièrement touchée. En effet, dans son discours, l'acteur fait l'éloge de la gentillesse et c'est assez bouleversant, dédiant même son César à tous les gentils. Alors, bien sûr, dit comme ça, ça peut paraître un peu niais, mais je rappelle qu'il s'adressait à une salle remplie d'acteurs, réalisateurs, producteurs, distributeurs. Donc, si t'enlèves les ouvreuses et la dame pipi, en fait, le gars s'est plus ou moins remis son César à lui-même. Mais peu importe, parce que en l'écoutant, j'ai éclaté d'un grand « mais oui, Karim, merci !» Parce que oui, particulièrement en cette période brutale, la gentillesse est une valeur beaucoup trop méprisée. Et les gentils avec. On l'a encore vu récemment avec l'humiliation infligée à Volodymyr Zelensky à la Maison-Blance par Donald Trump et J.D. Vance. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sachez que vous pouvez consulter la vidéo sur YouPorn en tapant « Gangbang with Ukrainian goes bad ». Mais l'époque est comme captivée par la méchanceté. Et quelque part, je la comprends. Moi-même, il n'y a encore pas si longtemps, je crois que j'étais un peu fascinée par les méchants. Ouais, en amour notamment. J'avais un faible pour les bad boys sauvages, toxiques et mystérieux. Pour vous donner une idée, quand j'étais ado, moi, mes idoles, c'était Nicolas Dubochel dans Hell, Mr. Big dans Sex and the City et l'inspecteur Gadget. Excusez-moi, pardon, mais un mec qui se balade partout avec un grand impair, c'est pas juste pour cacher une hélice, non. Non. Mais oui, oui, je trouvais les connards sexy. Alors, je vous cache pas que quand je suis arrivée à Paris, ah bah, à peine trois pas et j'ai failli glisser dans une flaque de moi-même, quoi. Tous ces gens désagréables qui sourient jamais, qui t'aident pas quand t'es perdu dans le métro. Oh là là, j'en pouvais plus, quoi. Parfois, il m'arrivait même d'aller juste voir un mec et lui dire « Excusez-moi, c'est quelle direction, Cluny ?» Hein, quoi, je sais pas, désolé. C'est pas grave, moi je veux juste aller à Bourse. Ah, oh, c'était une passion. Une passion. Mais heureusement, j'ai réussi à dépasser tout ça. Et aujourd'hui, je suis tellement d'accord avec Karim. Oui, vive les gentils. C'est simple. Aujourd'hui, tu me rends un service, je fonds. Tu m'écoutes quand je parle, je tombe amoureuse. Tu me sers un café, je tombe enceinte. Comment ? Non, sans sucre, Daniel, merci. Je te jure, aujourd'hui, si tu veux me pécho, m'envoie pas une dick pic en fait. Envoie-moi un screen de ton dernier message envoyé à ta mère.
Ouais.
Vraiment, franchement, la gentillesse, c'est tellement sexy. Parce que c'est facile de détester tout et tout le monde. Alors qu'être gentil, c'est prendre un risque. Être gentil, c'est s'ouvrir, c'est être vulnérable, c'est avoir le courage de se laisser heurter par le monde. Alors bravo à Karim, bravo aux gentils, bravo à tous les courageux qui rendent ce monde meilleur. Bon, et du coup, Daniel, mon café, je me le fous au cul ou
C'est vrai qu'il remerciait les gentils, c'était formidable,
ouais.
Formidable et tellement mérité en plus.
Ah ouais.
Revenons donc à cette intruse dans cette série. Qu'est-ce qui vous a plu à la lecture, Mélanie Douté, de cette histoire où vous êtes quand même victime?
Victime et puis en même temps j'ai un rebond qui fait que oui je suis pas passive en tout cas.
Non. Je voulais pas tout spoiler non plus, mais c'est vrai qu'il y a deux temps, on va dire un premier temps où vous subissez, un deuxième temps où vous agissez, où vous passez à l'enquête.
Oui, mais je subis mais je suis quand même dans une quête quoi, même si elle est très intime au début, j'ai pas du tout le sentiment d'être clouée, enfin je suis face au mur mais je suis pas je suis très en observation, en introspection, enfin voilà.
Et c'est peut-être de jouer d'ailleurs ces deux étapes qui sont intéressantes pour vous.
Oui, voilà, merci. Oui, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était il y a plein de notes à jouer en fait, et que ça évolue énormément, et que même en tant que compagne, le rapport il évolue aussi beaucoup parce qu'on n'est pas toujours au taquet sur une relation au bout de j'imagine 25 ans de mariage, qu'au bout
avec. Si.
Pas tout le monde,
non,
alors.
Non.
Que...
Donc on fait que de la fiction, soit. C'est le thème. Hein.
Que même avec ses enfants, voilà, ça, c'est compliqué aussi quand ils sont
non,
les
et
ados.
Et puis que le moindre grain de sable, c'est ça qui peut être paradoxal. C'est-à-dire que dans un foyer, trois enfants, un couple qui semble heureux, bourgeoisie, provinciale, on se dit, parce qu'ils sont aussi dans un confort.
Oui,
totalement. Un beau pavillon, ils ont les moyens, voilà, ils ont les moyens d'engager, de loger et d'aider. Les grains de sable commencent à venir enrayer un peu cette image du bonheur paisible et tranquille. Le grain de sable, ça commence par être vous, qui, encore une fois, Lucie Fajdé, dans cette série, est l'intruse, mais dans un premier temps, plutôt la bienvenue et plutôt la fille sympa.
Bah ouais.
Voilà. À tous les niveaux, partout, et qui veut aider, qui veut juste, qui demande simplement à être dans cette famille.
Ouais.
Et c'est là où cette présence qui s'impose de tous les moments, même quand on lui dit non mais reposez-vous, détendez-vous, on va partir entre nous, ou on fait une photo, on fait un selfie en famille, hop. Elle se tape l'incruste.
Ouais.
C'est plus l'incruste que l'intruse.
Mais l'incrusteuse, c'est vraiment laid.
Ouais. Non, non, mais j'entends. Je remets pas en cause le titre. Ouais, ouais. Non, non, c'était pour lancer une perche, mais c'est
oui,
ça.
Oui, bah c'est
un peu l'incruste.
En fait, ça dépend. Ce titre-là, on peut le lire de deux manières différentes. C'est que pour le personnage de Paula, je suis l'intruse. Et au fur et à mesure de la série, pour mon personnage, Paula est l'intruse. Donc en fait, c'est cette double lecture-là que j'ai trouvée.
Ouais, une forme de cambriolage de la vie privée.
Non, mais je pense que c'est tout autant vertigineux pour quelqu'un, pour une jeune fille au pair, d'arriver dans une famille comme ça, d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, de se fier au quotidien,
au code de la famille.
Ouais. Enfin, du coup, le personnage de Tess est pas du tout dans les mêmes codes que la famille de Paula. Donc c'est tout autant vertigineux pour elle. Et après, c'est de se rendre compte qu'au final, c'est comme une greffe qui ne prend pas, quoi.
Et elle découvre les failles, en plus, parce que c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tiens, comment une jeune fille qui vient d'arriver fait basculer aussi vite une famille ? C'est qu'elle s'appuie aussi sur des éléments qui peuvent faire craindre que le mensonge s'est installé depuis déjà longtemps dans ce foyer. Et c'est là où c'est malin. C'est-à-dire que c'est pas juste, elle vient pas déstabiliser une situation classique. Elle vient déstabiliser une situation qui est un peu bancale, déjà.
Et c'est elle qui a une double vie. Et c'est ça aussi que l'on découvre au fur et à mesure.
Plusieurs.
Voilà, c'est qu'il y a des fréquentations, il y a des amitiés, il y a des réseaux sociaux qui vont être aussi des rebondissements dans tout ça.
Ah oui, c'est vraiment, en fait, au fur et à mesure, c'est le propos des épisodes 3 et 4, c'est vraiment la quête du personnage de Mélanie, de Paula, dans qui est réellement Tess.
De la découvrir, exactement. C'est ce soir sur France 2, vous l'avez compris, on a aimé, ça s'appelle L'Intruse.
Avec une super musique.
La preuve.
Oui, merci de la passer.
Service. La musique dans vos vies, on va évoquer avec Lucie Joly qui est psy, on va évoquer le postpartum avec crise, dépression, problème ou pas. Elle sera notre invitée dans quelques instants. Mais la musique dans la vie de Mélanie Douté, toujours été présente, cette musique All and Out. Qu'est-ce que j'adore ça, c'était fin des années 90. Oh yeah, well, la coupe était un peu coupe de mulet, mais la musique était bonne. En tout cas, il se passait quoi dans la vie de Mélanie à ce moment-là, Leïla ?
Eh bien, 99-2000, Mélanie, vous êtes au conservatoire. Vos parents étaient assez effrayés à l'idée de vous voir emprunter cette carrière. C'est marrant de vous retrouver dans L'Intruse avec votre père.
Eh oui, Alain Douté joue le rôle de votre père dans la série. Quel casting rapide. On s'est dit, tiens, il y a une ressemblance, on y va.
Ben oui, parce que le personnage de mon père dans la série est un homme réconfortant à l'écoute et il me veut beaucoup de bien. Et donc ça tombe.
Voilà, vous dites que votre père vous a toujours dit que ce qui est le plus important dans ce métier, ce sont les 80 premières années.
Oui, c'est une phrase de W.C. Fields, voilà, il m'en reste encore 40. mais c'est une phrase assez juste, on parlait de gentillesse, ça en fait votre partie.
Si on devait retenir quelque chose de votre formation au conservatoire...
Déjà, est-ce qu'elle a retenu quelque chose?
Ah, mais c'est pour ça que j'ai mis cette musique, parce que c'est 3 années de joie absolue, d'énergie. On a l'impression qu'on va travailler en troupe toute sa vie, même si c'est pas le but, mais de pouvoir travailler du Molière à 16h, du Shakespeare à 18h. Bon, je prends les gros auteurs. On travaille de tout, on peut tout explorer, tout exploiter, des rôles d'hommes, des rôles de femmes, des rôles de vieux, de vieilles. C'est un laboratoire extraordinaire pour le jeu.
Dans cette même période, c'était la naissance de Lucie FHD et dans la naissance. Tout est chaos. D'Icao. Pourquoi ce titre de.
Parce que j'ai été bercée par Mylène Farmer pendant toute mon enfance.
Ah, c'était votre nounou alors, ça y est.
Ouais,
c'est le père. Hein.
Non, mais c'est quelque chose que j'écoutais beaucoup avec mon papa dans la voiture, donc j'ai voulu un peu lui rendre hommage et. Mettre un titre de Mylène Farmer.
Mais quelle enfance.
Vous avez beaucoup évolué dans les bassins de natation.
Oui, j'ai commencé la natation assez jeune. D'après les dires de mes anciens coachs, je nageais très bien, mais je nageais pas assez vite. Du coup, et en fait, finalement, la natation m'a mis sur le chemin du cinéma, car c'est là où j'ai été repérée quand j'avais 12 ans pour un casting. Et en fait, c'est un peu là où tout s'est enchaîné.
Je vois pas le rapport, pardon.
En fait, j'étais repérée enfant dans une piscine pour passer à un casting. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Quelqu'un est venu
directrice de casting. En casting sauvage est venue...
Mais parce qu'elle cherchait des
enfants qui nageaient. Donc du coup, okay. J'ai passé un casting, enfin, je me suis peut-être mal exprimé.
Non, c'était moi qui voulais le côté un directeur de casting qui
non, c'est vrai, on comprend pas tout.
Ma première radio, soyez indulgents.
Un directeur de casting qui vient dans une piscine voir des enfants en maillot, je pose juste la question.
Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi.
Ah non, mais c'est un directeur de casting.
Et t'as pas reconnu.
C'est vrai.
Moi, je t'ai reconnu.
Mais du coup, c'est comme ça que ça a commencé. À un moment, j'ai dû faire un choix entre la natation et le théâtre. J'ai choisi le théâtre, je pense que c'était la meilleure des décisions à prendre.
2013-2014, Mélanie Douté. Dans les musiques de films, et je crois que même Tarantino avait repris aussi cette la version anglaise de Bang Bang. C'est cette version là qui fait écho.
Oui, déjà j'aime bien aussi les versions françaises. Je trouve qu'on a des belles versions françaises. On a une belle langue quand même.
Absolument.
Et oui, mais parce que vous m'avez donné, c'était par rapport à la French. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait partie de la BO du film. Et
Bang, la French. Voilà. Très bien.
Vous incarnez la femme de Gaëtan Zampa dans ce film de Cédric Jiménez, en incarnant une personne réelle, sans chercher à la copier, mais en essayant de restituer l'image qu'on peut en donner à cette époque-là, parce que c'est un film aussi d'époque et de genre.
Oui, et puis en même temps, c'était des personnes qui évoluaient, enfin en tout cas pour la femme de Zampa, qui évoluaient dans un faste quand même, malgré le danger, et l'intérêt, plus que l'interdit d'ailleurs. Mais oui, donc c'était intéressant de d'incarner ça. Mon personnage se sentait très protégé quand même.
Ouais. Vous avez gardé un accessoire de ce tournage, justement une tenue, quelque chose qui appartient à votre personnage.
L'imperméable de l'inspecteur Gadget.
Non, je crois pas la musique.
La musique.
Des beaux souvenirs du tournage. Ouais.
Lucie FHD, en 2013-2014, vous écoutiez Mary J. Blige. Qui évoque des soirées de potes
Non, danse. Ça évoque pour moi le tournage, du coup, comme je l'ai mis en lien avec, du coup, pas en mode d'emploi, c'est vrai que j'ai tourné avec laquelle j'ai grandi. Et moi, j'ai souvenir, de partie dans le HMC avec mon compère.
Coiffure,
oui, voilà, dans les loges avec du coup celui qui jouait mon frère dans la série Orfeo Campanella, et on écoutait beaucoup de musique, parfois on attendait pendant longtemps, on écoutait de la musique, et il y a celle-ci qui m'est venue. Voilà.
De vos 13 à vos 17 ans, vous jouez dans cette série qui est diffusée quotidiennement sur France 2 après le JT. Comment est-ce qu'on concilie ça avec l'école?
Du coup, j'étais tout mon collège, j'arrivais à jumeler les deux, je rattrapais les cours le soir, etc. Et au lycée, j'ai eu la chance d'être dans un lycée horaire aménagé, où j'avais cours que le matin, et l'après-midi, il y a un régisseur qui venait me chercher à la sortie du lycée pour aller tourner. C'était hyper intense, mais après, ça a été le deal avec mes parents tu continues à faire ce métier, mais en fait, t'as ton bac, il faut que... Enfin, les études d'abord.
Pas négociable.
Est-ce que la rigueur du sport vous a aidé à être rigoureuse dans le travail, justement, d'actrice ?
Oui, après, c'était quand même un énorme terrain de jeu par mode d'emploi, parce que on tournait énormément de sketchs par jour. C'était vraiment très, très dense.
Il faut qu'il y ait quoi, 6-7 minutes par jour de...
Ouais, on tournait vraiment beaucoup. Et après, c'est aux côtés d'Alix Poisson et Arnaud Ducret qui jouaient mes parents. J'ai énormément appris avec eux et j'apprenais à les regarder, à jouer avec eux. Et c'est cette rigueur-là, en fait, que j'ai appris au fur et à mesure des années. Voilà.
En 2018, Mélanie Douté, vous écoutiez... Toujours à la pointe. Mais vous voulez savoir ce qui est sorti sur Spotify, vous appelez Mélanie. Pourquoi Zizi Jean-Mère?
Parce que c'était par rapport aux Molières, je crois. C'était l'année des Molières et ça m'amusait de mettre un truc aussi...
Vous avez raison.
Voilà, et puis un petit peu... Je n'ai pas trouvé le mot que je cherche.
Intemporel.
Oui, intemporel. Ouais. Et puis, c'est des petits trucs en plus, quoi.
Ouais. Voilà. Douce amère de Jean Poiré, mise en scène par Michel Faux.
Ouais.
Quel beau spectacle qui vous vaut d'être nommé aux Molières de la comédienne dans un spectacle privé. Les Molières, ça arrive bientôt, d'ailleurs. Et vous jouez aussi à cette période-là dans Le Grand Bain.
Oui, exactement.
Ouais, c'est une double année, cinéma, théâtre. Est-ce que les propositions au théâtre sont plus compliquées à à trouver, à chercher, parce que je pense que vous devez choisir bien précisément vos rôles.
Oui, le choix est complexe au théâtre, parce qu'on sait que ça va nous accompagner, en plus des répétitions, dans le privé au moins 6 mois, quoi. Donc, dans le quotidien. Donc, oui, c'est un engagement.
C'est un emploi du temps aussi.
Oui, évidemment. Dans le quotidien, c'est terrible. Oui, c'est une longue réflexion.
Oui, parce qu'il ne faut pas, si on s'engage trop tôt et si on a une proposition de tournage, on doit refuser. Enfin, ça bloque beaucoup de choses.
Oui, ça peut bloquer, mais c'est aussi, enfin, c'est tellement la sensation sur scène. Je pense qu'il y a des camarades autour de la table qui peuvent en parler. Est tellement incroyable que faut faire certains sacrifices, mais avec joie, quoi.
On va passer du grand main au bac de Lucie Fajdé. Dans cette période-là.
Ouais, c'est ça, j'avais 17 ans. Ouais, bah en fait, j'ai choisi cette musique parce que des dernières épreuves du bac, ma sœur m'avait offert un passe 3 jours pour aller au Solidays et du coup j'ai vu IAM et vraiment je trouve que cette musique, enfin je suis arrivée en dansant le Mia dans la vie adulte avec mon bac et
elle voulait pas que vous passiez votre bac quoi en fait.
Je suis allée au Solidays juste après les épreuves du bac.
Pour fêter la fin des épreuves en attendant le résultat du bac, part en mode d'emploi s'arrête.
Oui, c'est ça. Ça a été, c'est une page de ma vie qui se tourne pour aller vers autre chose. Et voilà, j'en garde vraiment des super souvenirs.
Et l'autre chose, c'est les cours Florent tout de suite après le bac.
Oui, les cours Florent. Voilà, donc ça a été une question. Enfin, l'année de mon bac, j'ai arrêté tous les cinémas, casting, etc. pour vraiment me poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier-là, parce que c'est quand même un engagement et puis c'est quand même dur. Donc faut se dire est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça. Et la réponse a été oui, parce que du coup, je me suis inscrite au cours Florent, dans le cursus professionnel pour continuer à apprendre mon métier.
Comment justement vous appréhendez toutes les deux l'intermittence du spectacle ? C'est-à-dire que c'est l'attente aussi du projet, de la lecture d'un scénar, que ce soit pour jouer dans une série, dans une fiction ou d'une pièce de théâtre. C'est l'attente, c'est aussi démarcher, écrire, demander que l'agent vous propose d'aller à des castings.
Ou des années où on n'a pas assez de cachet.
C'est un métier particulier, c'est ça, où on est avec des... des trous d'air aussi,
faut être bien entouré, continuer à rester actif même dans les périodes un peu plus calmes. Et
vous avez la chance de pouvoir décider de ce tempo vu ce que vous avez fait, votre notoriété, mais il y a forcément des moments où il y a des doutes, non? Mais qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Pourquoi vous faites sa tête?
Non, j'ai un truc dans le micro.
Ah, le casque, dans le casque. Ça, c'est le casque.
Ah oui, pardon.
Le micro, on parle devant.
Dans mon genou aussi, c'est passé quelque chose.
Non, mais. Pardon. Est-ce que cette question se pose ou pas?
Ah oui, elle se la pose. Et puis moi, je pensais que j'allais mieux le vivre qu'au début, qu'à mes débuts. Et en fait, non. non, je ne le vis pas toujours aussi bien. Je trouve ça compliqué de vivre avec cette instabilité. Ouais. On s'y fait pas trop, je crois.
Non,
enfin, ça dépend des personnalités, peut-être.
Non, moi, je m'y fais pas non plus. Et puis, d'un autre côté, je me vois pas faire un 8h-18h tous les jours, être assis derrière un bureau. Donc, c'est aussi des choix de vie, mais je pense que...
C'est vrai que c'est un paradoxe du métier.
Mais
c'est
choisir
une liberté et en même temps subir cette indépendance.
Voilà, mais pour moi, la passion est plus forte, donc je suis prête à avoir ces moments de doute-là. Et je pense que ça fait partie du jeu aussi.
Je pense à ça parce que ce soit pour Parents Mode d'Emploi ou Clara Scheller, on peut se retrouver dans des séries peut-être prisonnière d'un personnage, mais aussi se dire ça dure, ça continue, il y a plusieurs épisodes. Là, ce sont des mini-séries. C'était le cas de Clara Geller, c'était pas le cas de Parents Mode d'Emploi qui a duré des années. Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est rassurant quand on est actrice d'avoir des rôles qui durent comme ça sur 3 à 4 5
ans ? Non, moi je le voyais pas du tout comme un piège parce que j'ai commencé, j'avais 12 ans, donc j'avais aucun recul sur le fait que je puisse faire ça après mon bac. Enfin, je le voyais vraiment comme un jeu. Donc je me posais pas les questions à 13 ans de me dire est-ce que c'est un bon choix pour ma carrière. Vraiment pas du tout.
Heureusement.
Et heureusement. Et puis, vraiment, je le voyais pas du tout comme ça. Je le voyais vraiment comme un terrain d'apprentissage.
Alors que maintenant, il y a cette inquiétude de savoir de quoi le lendemain sera fait.
Non, moi, je préfère me dire est-ce que le rôle m'intéresse. Et je me pose pas trop la question de me dire est-ce que c'est un rôle récurrent, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une mini-série, est-ce que c'est un podcast, est-ce que c'est du théâtre. Vraiment, je me pose pas ces questions-là. Tant que le rôle, le metteur en scène, la metteuse en scène m'intéresse.
Et dans L'Intruse, ce qui vous a plu ?
De retravailler avec Shirley Montsarrat, du coup, avec qui j'avais tourné dans la série Scam. Et aussi le personnage, de jouer cette méchante-là. Et même à nos âges, c'est vrai que c'est rare, en fait, d'avoir ce genre de personnage-là. Donc, je l'ai vu comme une chance, encore une fois.
Quand vous dites à nos âges, vous parlez de l'âge que vous avez toutes les deux.
Pardon, à mon âge.
Non, c'est normal. Nous allons parler avec Lucie Joly qui nous a rejoint. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Bonjour docteur. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialisée dans la santé mentale des femmes, en particulier pendant la grossesse et après l'accouchement postpartum. C'est du latin, mais c'est ce que ça veut dire. C'est lorsque l'enfant n'est plus en soi et que l'on peut... C'est plus que le baby blues.
Mais oui, il faut différencier.
Ouais, justement, c'est ce qui est dit dans la
dépression du postpartum. Hein. Le baby blues, c'est vraiment un état qui est physiologique, qui est transitoire, qui touche 60 à 80% des femmes qui ont accouché avec une irritabilité, une labilité émotionnelle. On pleure plus facilement, des doutes sur ses compétences maternelles. Ça ne nécessite pas de prise en charge particulière, le soutien, l'écoute de la famille. Voilà, c'est physiologique en lien avec les remaniements hormonaux.
Les hormones, on en parle.
Après l'accouchement, donc. Après l'accouchement.
Mais voilà, c'est différent de la dépression du postpartum qui est un état pathologique qu'il faut vraiment prendre en charge. Et en fait, comment on va le diagnostiquer, cet état? Eh bien,
comment le définir même?
Voilà, comment on le définit? Eh bien, c'est quand des symptômes vont perdurer plus de 15 jours et vont altérer le fonctionnement de la personne. C'est quoi ces symptômes? C'est de la tristesse, c'est de l'anxiété, c'est des doutes sur ses compétences maternelles. C'est aussi, et notamment dans le postpartum, des phobies d'impulsion. La peur de faire du mal à son bébé, par exemple. D'accord. Typiquement, c'est des femmes qui vont passer à côté de la fenêtre avec leur bébé, qui vont avoir la peur de le jeter par la fenêtre. Alors, rassurez-vous...
De le jeter, pas la peur de tomber ensemble, non, c'est la peur
de le tuer. Ouais, typiquement, quand on n'est pas enceinte, c'est quand on est sur l'autoroute et qu'on a peur de donner un coup de volant sur le côté. Il n'y a pas de passage à l'acte, ça fait partie des troubles anxieux, mais c'est assez spécifique de la dépression du postpartum.
Et ce sont des signes que l'on détecte soi-même ou sont des signes perçus par l'entourage?
Alors les deux, très souvent quand on a déjà fait une dépression, on est plus alerte pour détecter ces symptômes, mais très souvent c'est
vous
le conjoint.
Ouais, c'est ça.
Voilà, ou l'entourage qui va amener ces femmes à consulter.
Alors comment on vit avec ça? Est-ce que c'est un passage est-ce que le temps fait son affaire ou au contraire il faut le traiter?
La dépression du postpartum, il faut la traiter, il faut une prise en charge spécialisée. On peut vivre avec, mais ça altère le fonctionnement, ça altère les relations avec son conjoint, avec sa famille, avec son nouveau-né.
Si on vit avec, est-ce que ça passe?
Ça finit par partir ou
alors
pas,
moi, par exemple, très souvent, je vois des femmes qui sont enceintes de leur deuxième enfant et qui n'ont pas été traitées de leur dépression du postpartum du premier. Donc, il faut le traiter. Alors... Quand on a des symptômes légers à modérés, ça sera plutôt par une psychothérapie. Quand les symptômes sont plus intenses, plus sévères, là, on proposera un traitement médicamenteux par antidépresseur.
Et dans ces cas-là, dans le cas dont vous parlez, est-ce qu'on sait si l'enfant qui est en gestation ressent la dépression de sa maman?
Alors, en gestation, donc c'est la dépression anténatale et on sait la dépression, elle peut avoir un impact sur la grossesse. C'est-à-dire que quand on est stressé, on va augmenter son taux de cortisol et le cortisol, c'est pas bon pour les paramètres obstétricaux. On va accoucher plus prématurément, on va avoir plus de retard de croissance. Dans le postpartum, si la dépression, elle est prolongée, il peut y avoir un trouble du développement psycho-affectif développé par l'enfant. Mais il faut vraiment que ça soit prolongé et que les symptômes soient intenses.
Alors, tout le monde ne subit pas, ne vit pas, on va rassurer celles qui rêvent d'avoir un enfant, c'est pas systématique, ce genre de problème, que ce soit le baby blues ou la dépression postpartum. Est-ce qu'il y a quand même des conditions de congé maternité, de prise en charge, des conditions presque qui peuvent être des décisions politiques à prendre pour gérer ces cas particuliers?
Alors, il faut savoir qu'en effet, ça touche pas toutes les femmes, cependant, c'est quand même une femme sur cinq après l'accouchement, donc c'est une prévalence qui est assez importante. Et rappelons-le, hein, le suicide maternel est la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. C'est un chiffre dont on parle peu, mais qui est quand même assez effrayant. Donc, il faut vraiment être plus sensible dans la détection, dans la prévention de ces femmes qui ont des facteurs de risque. En effet, le congé maternité, eh bien, ça peut être quelque chose qu'on peut prolonger parce qu'en France...
Pour rajouter du paternité aussi, c'est-à-dire soulager...
Voilà. en France, c'est 16 semaines. C'est quand même compliqué en termes de rétablissement déjà physique, hein, parce que l'accouchement, c'est une vraie épreuve physique, mais aussi en termes émotionnels et en termes de relation avec son nouveau-né. Hein, déposer son nouveau-né de 2 mois et demi à la crèche, c'est quand même assez tôt.
Ça reste un abandon.
J'ai vu, il y a un pays où ils viennent de faire passer le congé paternité. C'est quoi, c'est en Finlande ou...
Alors, en France, on a un congé paternité maintenant qui est de 28 jours.
Un mois, ouais, c'est ça.
Voilà. Après,
mais ils veulent le raccourcir, là.
Alors, oui. Ça, je sais pas, mais en tout cas, en Suède, et c'est un modèle qui, à mon avis, il faudrait explorer, il y a un congé donc de parentalité de 16 mois, où, en fait, on peut se répartir un petit peu la durée. Oui. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça implique plus le père.
Voilà. 16 ans, parce qu'il y a quand même du boulot jusqu'à 16 ans.
Oui, sauf qu'il faut encore que... on s'autorise à le prendre, et c'est aussi le problème. Dans plein de situations, que ce soit l'homme ou la femme, d'ailleurs.
Par le personnage de Mélanie Douté dans la série aussi.
Oui, la culpabilité de rester à la maison, alors que tu pourrais aussi gagner de l'argent.
Voilà.
Vous êtes enseignante, je ne l'ai pas dit, à Sorbonne Université, pardon, et auteur donc de La dépression au féminin, démystifier, comprendre, guérir, tout ça aux éditions du Rocher. Merci, docteur. Vous l'avez co-signé avec un docteur Hugo Botman, que l'on adore aussi, hein, qui vient très souvent ici et que vous connaissez bien. La dépression au féminin. Il vient nous en parler aussi. Embrassez-le pour nous, c'est gentil. Voici Bruno Pecky.
Aujourd'hui, c'est le mercredi des cendres. Voilà, ce qui pour moi change que dalle, parce que toutes les semaines, à chaque pause club de Daniel, je dois l'accompagner, lui utiliser ma bouche comme cendrier. Merci messire de me donner une utilité. Mais le mercredi des cendres annonce aussi la fin de la période des carnavals. Et en tant que Brésilien, ça me touche. Voilà, j'ai le souvenir de mon premier carnaval de Rio, c'était incroyable, quoi. Bon, toi, t'aimerais pas Nagui, hein, les gens n'ont pas de chaussures. Mais l'ambiance, ouais, n'y va jamais, quoi. L'ambiance est quand même folle, hein. Tout le monde dansait, chantait, c'était génial, jusqu'au moment où j'entends un mec dire « Ouais, bah le carnaval de Dunkerque, c'est quand même mieux, quoi. Pardon !» Donc je fais plus de 9000 bornes pour encore me retrouver à côté de Français qui râlent, quoi. Évidemment, j'ai pas fait mon lâche. Je suis allé vers lui et je lui ai dit « Vai te fuder, c'est Widjot. » Et il a répondu « C'est fou, ici, ils viennent nous parler alors qu'on se connaît pas, qu'ils sont chaleureux. » C'était donc un vrai Français. Ouais, mais comparer Rio à Dunkerque, quoi, c'est abusé. Il y a une immense différence entre les deux carnavals. Celui de Dunkerque, on peut amener des enfants. Tandis qu'à celui de Rio, on les conçoit. Non, j'exagère, je suis trop dans les clichés. En réalité, vaut mieux pas amener d'enfants au carnaval de Dunkerque.
Ah bon ?
Bah non, en plus, une de leurs traditions, c'est de jeter 500 kilos de hareng fumé depuis l'hôtel de ville. Ouais. Non, c'est un vrai truc, ouais. Toute l'année, t'apprends à ton gosse à ne pas jouer avec la nourriture, de pas gaspiller. T'arrives à Dunkerque, il y a le maire qui balance l'équivalent de 12 fois le casting de Nemo par la fenêtre, quoi. Non, mais leur carnaval, là-bas, c'est un délire. Il dure 3 mois. Ce qui veut dire qu'à Dunkerque, tu passes un quart de ton année ivre. Sans doute pour oublier que t'habites à Dunkerque. Non, mais je m'en mets pas. Leur carnaval dure 3 mois, quoi. Alors que leur été, il dure 2 jours. Ah, mais techniquement, si tu commandes une pizza 4 saisons à Dunkerque, il devrait avoir un quart qui est déguisé, trempé dans de la bière et recouvert de hareng séché. Alors je sais, en France, vous avez aussi le carnaval de Nice, où l'une des traditions, c'est de jeter des fleurs.
Ouais.
Non, mais c'est quoi votre délire en France? Vous adorez tout jeter, quoi. Des harengs, des fleurs, des arabes dans la Seine. Un moment, faut se calmer, quoi. Non, mais sérieux.
Ouais.
Après, le lancer des fleurs, c'est quand même pratique, hein, parce que vu la moyenne d'âge des Niçois, ils peuvent récupérer les fleurs et les réutiliser au prochain enterrement 3 jours plus tard. Alors, j'ai raconté cette tradition aux Brésiliens, ils ont trouvé que c'était du gâchis. Hein. Bah oui, en France, vous jetez des fleurs, au Brésil, on se les met dans le cul. Non, et pour ça qu'on danse si bien. Ah, bah si on avait foutu quelques plumes dans le huc de Stephen Hawking, même lui, il aurait dansé la samba. Hein.
Non.
Bon, je m'emballe, mais c'est le principe. Voilà, le carnaval, c'est l'excès. Pendant cette période, tu peux dire et faire ce que tu veux, la police, elle te laisse tranquille. En fait, le carnaval, c'est la seule fois de l'année où on peut se mettre dans la peau d'un politicien français. Par contre, on pourra jamais battre le Brésil. Hein. Eux, c'est la fête non-stop, quoi. Il y a d'abord un pré-carnaval, puis le carnaval, et ensuite il y a le post-carnaval qui dure à peu près jusqu'au pré-carnaval de l'année suivante. Hey, ils savent célébrer au Brésil. Hein. Preuve en est avec la victoire ce week-end aux Oscars du film Je suis toujours là. Il y avait des retransmissions de la cérémonie sur écran géant, et ça, c'est la réaction dans les rues dans le film quand le film a gagné la catégorie meilleur film étranger.
Oh, génial.
Oh, wow.
Mais c'est abusé. On dirait
comme
qu'ils ont
un but.
Une Coupe du Monde.
Ouais, c'est ça,
ouais. C'est du foot, quoi. À titre de comparaison, ça, c'est la réaction dans la rue en France quand les Bleus ont battu l'équipe de Suisse en 8e de finale de l'Euro. Ah bah non, c'est nous qui avons gagné ce match.
Ça n'arrivera plus.
C'est un malentendu.
Mais rassurez-vous, pour faire la fête, s'il vous reste encore un peu de temps, dans un carnaval, faut juste choisir, voilà, entre Dunkerque et Rio. Concrètement, est-ce que vous préférez des danseuses bronzées en bikini et plumes à paillettes ou des bifles au hareng jetés du haut d'une mairie? Bon, on se voit à Dunkerque.
T'as choisi. Merci, bonjour, Becky.
Sur scène, Bruno, à Paris, le 29 avril, du 18 au 21 juin, à Lyon.
Top. Tanguy, tu nous as rejoint. De quoi vas-tu parler si t'es réveillé?
Petit point d'essai. Je vous parlais de l'enquête autour de la mort de Gene Hackman, de son épouse, de son chien. En fait, tout le monde est mort à la maison. On a même retrouvé une araignée pendue à sa toile dans un coin du salon.
Quelle horreur. L'intruse fait peur, l'intruse fait réfléchir et l'intruse fait plaisir. C'est un bon thriller qui passera ce soir sur France 2. Deux épisodes. Eric Caravaca, que je n'ai pas assez cité, qui est formidable à vos côtés. Mélanie Douté et Lucif HD. On en parle jusqu'à midi et demi sur Inter. C'est la bande originale, et oui, avec Leïla Kadour, avec Lisa Delmoitier, Camille Lavabre, Oldela, Bruno Pégini, Tanguy Pasturo, Daniel Morin,
coucou Camille,
et nos invités, Lucie Fajdé, Mélanie Douté.
Bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
L'intruse, j'ai oublié de le préciser, au-delà du fait que cette série passe ce soir sur France 2 et qu'elle est excellente, c'est du suspense, mais qui peut avoir un écho. Alors, j'allais dire un écho chez tout le monde. En tout cas, certaines personnes voyant la série vont se poser des questions lors des prochains entretiens d'engagement de fille au père et de nounou.
Ça, oui, c'est de toute façon, c'est pas anodin, un entretien avec une jeune fille au père.
Et puis on lui confie ce qu'on a de plus cher au monde, c'est-à-dire son enfant.
Exactement. Mais bon, c'est une fiction.
Reçu et qui a gagné le prix du meilleur scénario, le prix de la meilleure série, le prix de la meilleure réalisation, tout ça au festival de Luchon cette année.
C'est exactement. Vrai,
à l'instant, j'ai envie de dire.
Tout de suite.
Et en plus de je crois que c'était en janvier, non?
Oui, c'est ça.
Lucie et Mélanie sont entourées d'Eric Caravaca, de Léonie Simaga, de Clément Siboni, de Mariama Gay, d'Alain Douté, donc ce cher et tendre papa que nous embrassons et toujours aussi. Il a une classe anglaise, j'ai envie de dire.
Ouais, il est classe.
Il a un côté Brett Sinclair dans Amica Manvose.
Ouais, j'adore.
Voilà, il a la classe. Anne Loiret, Louise Massin, Lola Neymark, Ellie Rose Dalmé et Zachary Hines, entre autres, dans cette série réalisée par Shirley Monsara. Ça aussi, on ne l'a pas suffisamment dit. Et pardon à Shirley, parce que cette réalisation est... D'abord, elle est remarquable, je ne critique en rien les séries télé, entre guillemets, mais elle est très cinématographique, justement. Elle a beaucoup de références dans la lumière, dans ses cadres, dans la manière dont elle fait ses déplacements, ses mouvements de caméra, et ses mises en scène aussi, avec ces sursauts que l'on peut avoir par moments, en se disant, mais non, est-ce qu'il y a une ombre ou pas? Est-ce qu'il y a une apparition ou pas à l'image? Parce qu'on a, peur, aussi, nous.
Ouais. C'est,
Je dis pas pourquoi, je dis pas à cause de quoi, mais on a peur.
Mais Shirley Monsara, la réalisatrice, affectionne particulièrement tout le cinéma de genre.
Elle a des refs, elle vous a parlé, elle vous a demandé de voir des films ou des séries.
Oui, du coup, grâce à elle, j'ai découvert le cinéma coréen, que je ne connaissais pas du tout, et je sais que dont elle est très très fan.
D'accord.
Donc il y avait pas mal de films, notamment le film Mademoiselle. Qui est un film coréen, bon, pas dans la relation entre les personnages, mais en tout cas dans cette relation de cette jeune fille qui arrive en fait dans cette famille, etc., pour donner un coup de main au personnage.
Et qui crée une tension.
Qui crée une tension, voilà. Et après.
Même Parasite, par exemple.
Parasite,
oui. Parasite, où la maison est un des personnages principaux du film, on retrouve un petit peu ce point commun avec l'intruse aussi, où la maison est une vraie partie dans la série.
Ouais.
Oui, la maison, le voisinage, parce que on a parlé de ce qui se passe dans le cœur de la famille depuis le début de l'émission, c'est-à-dire cette fille au père qui veut finalement, qui cherche une famille, rien de plus. On comprend qu'elle a été dans un foyer, on comprend qu'elle a besoin de ses repères de famille, qu'elle n'a pas eu ou suffisamment eu, en tout cas pendant son enfance. Je ne vais rien spoiler, c'est à vous de voir cette série. Encore une fois, ça reste un romancé et presque policier, c'est un véritable thriller avec une véritable tension, mais il y a aussi tout l'impact que ça a sur le voisinage, sur les amis, sur le travail, sur le regard des autres, l'entourage. Ça déteint, ça fait vraiment tache d'huile, cette intrigue.
Un effet domino.
Ne m'en parlez
pas. Oh là là là.
On a ça d'effet papillon.
C'est très imagé, c'est très bien ça. C'est très bien, bravo.
C'est l'intruse, c'est réussi et c'est très bien interprété. Bravo à toutes les deux.
Oh, ça a l'air bien comme ça.
Non, c'est vraiment bien.
C'est vraiment bien.
Ouais, elle joue bien. Elle joue bien.
Ça même tient, quand vous êtes, quand,
ce matin, le premier truc que j'ai dit en arrivant, j'ai eu peur de Lucie. Déjà. Donc c'est qu'elle joue bien. Ouais, elle joue extrêmement bien.
Voici
Monsieur Tanguy Pasturo.
Ok, petit bilan aux deux tiers de l'émission. Bon, on a ri. Des invités sympas, je pensais pas, m'avait dit Oldelaf tout à l'heure. Des humoristes venus de partout, Suisse, région PACA, mais il y a aussi des gens potentiellement de gauche, hein, puisque la Belgique est représentée par Lisa. Donc on est bien, on rigole. Mais est-ce la réalité de l'existence? Non. La réalité, c'est qu'on va mourir, tous. Une fois, j'ai cru mourir, j'ai vu un long tunnel. En fait, c'était une page de pub sur TF1. Et hier, je vous parlais de Lisa, je vais reparler d'elle deux fois dans une de mes chroniques. C'est ce qu'on appelle une consécration, Lisa. Et hier, après l'émission, je me suis dépêché parce que j'avais fort à faire ensuite. En fait, trois choses. Manger une entrée, manger un plat, manger un dessert. Mais en fait, j'ai déjeuné. Donc, j'avais déjà mon manteau, vous n'étiez pas encore sorti du studio. Lisa arrive et là, elle me dit « Tu es pressée ?» Je réponds « Oui ». Et elle me dit, je résume, hein, un truc comme « Je comprends, vu l'âge que tu as, tu n'as plus de temps à perdre ». Voilà, wow. Ce jour-là, 4 mars 2025, hier, j'ai perdu une amie. Enfin, une collègue. Enfin, une personne indéterminée que je saluais le matin. Enfin, parfois. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Petit A, pour montrer au public que Lisa Delmoitier n'est pas une belle personne. Petit B, parce que j'ai repensé à ça toute l'après-midi ensuite. Ça m'a traumatisé. J'ai été saisi par une urgence vitale de vivre intensément. J'ai pété un câble. J'ai un scooter, j'ai roulé 16 km sur le pneu arrière. Sur le périph', j'ai doublé le SUV de Bouba en lui faisant des doigts d'honneur. Ça s'est su. Canal m'a appelé, je serai sur la saison 3 de la série Validée. Dans le rôle d'Emmy Rouleau de Printemps, le Eminem français. Ce sera pareil, mais froid. 16h, wow. Envie de me sentir vivant, je me suis dit, je vais me battre avec quelqu'un. Je me rends devant le point virgule, salle de spectacle à Paris. Je tape à coups de tête dans la porte en hurlant, sors Morin, qu'on corrige ça au Shifumi. Parce que j'ai conscience de mes limites physiques. Une dame ouvre et me dit, Daniel Morin n'est pas là, il sera sur scène, mais en avril, pour 4 dates exceptionnelles. École Mylène Farmer, Daniel joue sur la rareté. Si ça se trouve, il ne viendra pas et ça fera encore grossir sa légende. En fait, je pense qu'on va voir quelqu'un de cagoulé, on se dira c'est Daniel, puis un spectateur lui arrachera sa cagoule et en fait, surprise, ce sera Quickie, le lapin de Nesquik, le seul avec Daniel à être actif à 16h. L'un pour goûter des enfants, l'autre pour son spectacle. Bon, ensuite, je vous la fais vite, j'ai traîné dans tous les bars de Paris, mais il n'y a plus de bars, il n'y a que des Starbucks, donc j'ai sifflé 12 lattés et 3 cappuccinos. À un moment, j'étais tellement rempli de café que je me suis mis à gonfler. Dans le 8e Starbucks, les mecs m'ont pris pour un muffin, je me suis retrouvé en vitrine à côté d'un type qu'ils avaient pris pour un donut. Je lui ai dit, c'est quoi ce truc que tu as au milieu? Il m'a répondu, mais enfin, on a tous ça. Ensuite, j'ai digéré, puis calmé, j'ai rejoint ma villa de Chatou. Et là, en regardant les domestiques profiter des derniers rayons de soleil dans le jardin, bon, j'ai crié, allez, back to work. J'ai pensé à la mort. Elle a raison, Lisa, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, d'accord, mais surtout de réaliste. La mort nous guette. Certes, plus elle survient tard, moins on a le droit de se plaindre. Gene Hackman, l'acteur américain, est mort à 95 ans. Bon, on se dit, il a profité. Personne sur Internet n'a écrit « Rip, petit ange, parti trop tôt hein ». Non, on s'est dit 95 ans, c'est beau. Vous vous rendez compte que le Parti Socialiste et les Daft Punk sont partis avant Gene Hackman. Pourtant, on pensait que ça allait durer très longtemps, les Daft Punk. Hein. Et hier, je jouais au golf avec Sybille Veil, patronne de Radio France, quand soudain, j'ai reçu une alerte concernant l'enquête autour de la mort de Gene Hackman. Jusqu'à présent, c'était le mystère. On a juste retrouvé son corps et celui de sa femme en état de décomposition. Hein, ça, ou partir à la chasse aux champignons trop tard dans la saison, ça revient au même. Et il y avait un de leurs chiens, mort lui aussi, enfermé dans un placard. Si les chiens jouaient à cache-cache, on serait dit, dis donc Fifi, il a certainement gagné la partie. Mais les chiens ne jouent pas à cache-cache. Donc les enquêteurs ont étudié toutes les pistes. Double suicide, triple avec celui du chien qui s'est peut-être tiré une balle au lieu de courir après, blague de vétérinaire névrosé, mais aussi cambriolage qui aurait mal tourné ou intoxication au monoxyde de carbone. Seulement les fenêtres sont nickel, il n'y a pas de traces de gaz et il n'y a pas de lettre d'adieu, même pas un réel sur Facebook. Et là, la dernière théorie des autorités, elle est très sérieuse, c'est celle des accidents domestiques en série. Comme dans Destination Finale, vous savez, quand vous sortez de l'avion en transe, parce que vous l'avez vu en rêve en train de se cracher, une fois dans l'aéroport, votre conjoint vous dit, mais enfin Monique, à cause de toi, on peut s'asseoir sur notre séjour à Cancun, et là en arrière-plan, l'avion explose. Et bien ensuite, la mort vous poursuit partout pour vous rattraper parce qu'elle travaille bien. Donc l'enquête révèle que Gene Hackman aurait eu un accident de pacemaker. Voilà, le truc s'est arrêté, il avait déjà montré, nous dit le Parisien, des signes de dysfonctionnement. Moi, j'aurais fait réparer. C'est un pacemaker. C'est pas un sextoy où tu dis à l'autre, ok, ça marche plus trop, mais enfin, tu sais quoi, bébé, on va prendre une courgette. L'épouse de Gene Hackman, Betsy, paniquée de le voir tomber, aurait chuté dans la salle d'eau en cherchant ses médicaments. Ils l'ont trouvé au sol, au milieu de pilules éparpillées autour d'elle, ce que Leïla Kaddour appelle un samedi soir. Mais avant d'aller dans la salle d'eau, Betsy, s'approchant de son mari, affolée, se serait appuyée sur la porte du placard, enfermant le chien. L'animal serait alors mort
rapport de déshydratation. Oh. Ah oui, c'est vrai qu'on est tous dans le showbiz. La déshydratation, c'est le fait d'arrêter de boire, même de l'eau. Ah oui, c'est vrai qu'on est tous dans le showbiz. L'eau, bon, bref, tout ça paraît improbable, mais c'est, en fait, c'est la thèse privilégiée aujourd'hui par les enquêteurs. Morale de l'histoire, si vous avez un pacemaker, pensez à la révision, et sinon, profitez de la vie, parce que Lisa, qui est une affreuse personne, a quand même raison, la vie passe trop vite.
Merci Tanguy Pastereau. Et bravo.
Tanguy sur scène ce vendredi à Plougonvelin, c'est près de Brest évidemment, et le 19 mars à Yvetot.
On parlait d'effet domino.
Voilà. Là, vraiment, on s'en est un.
L'horreur incroyable. Mais on verrait ça dans un scénar, on dirait, oh, c'est un peu too much quand même. C'est un peu too much. Alors que ce que l'on voit dans l'intruse, c'est pas too much. C'est tellement crédible que c'est ça qui fait peur. C'est que tout fonctionne dans tous ces rebondissements. Avec ce côté, j'ai envie de dire, un côté double pour les deux personnages. C'est-à-dire, dans un premier temps, la nounou, la fille au père, gentille, accueillante, prête à tout. Mais on sent bien qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas et qu'elle devient dangereuse.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et de l'autre côté, la maman qui au début est un peu ballottée, perdue, paumée, victime, se retourne, ressaisit la situation et devient enquêtrice.
Oui, c'est deux destins féminins qui vont s'inverser au fur et à mesure de la fiction. Ouais.
Et ça fonctionne extrêmement bien, encore une fois, c'est ce soir sur France 2 et ça s'appelle L'Intruse. D'autres événements culturels, Leïla ?
On va aux États-Unis et on va parler de cinéma avec un duo qui s'apprête à reprendre du service. L'un est un acteur encensé par la critique, l'autre un réalisateur mythique. Ça sera éventuellement leur 7e collaboration si Omar ce Fred. Film va au bout. L'histoire, c'est une histoire de gangsters qui s'entretuent pour prendre le contrôle d'Hawaï. Absolument. Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont remettre ça pour un film de gangsters, donc tiré d'une histoire vraie. Dans les années 70, un criminel a pris le contrôle de l'île d'Hawaï et il a ils sont entretués et ça a été une sorte de grand bain de sang.
C'est Stitch.
Avec Dwayne Johnson qui va incarner ce criminel, Emily Blunt aussi qui est prévue au casting, donc Leonardo DiCaprio.
J'ai déjà envie de le voir. Il n'a pas été tourné,
non,
j'ai déjà envie de le voir.
C'est leur 7e, ça sera éventuellement leur 7e collaboration. Entre ces deux-là, il y a des collaborations qui durent comme ça et qui font plaisir à voir et qui donnent tout de suite envie d'aller au cinéma. Est-ce qu'il y a un metteur en scène, un acteur pour lequel vous filez directement au cinéma quand un film sort et dont vous voulez nous parler de votre passion?
Ou inversement, vous sortez du cinéma.
Mais vous êtes censé le savoir avant de rentrer dans la salle.
<C'est vrai. rire>
Moi, j'ai une grande passion pour Kate Winslet.
Ouais.
Où vraiment, je pense que de par ses choix, ses engagements, je sais que dès qu'elle est à l'affiche, qu'elle produit ou qu'elle est dedans, en tout cas, à chaque fois que j'y vais, vraiment.
Ouais. Ça va être un gage de qualité de voir Kate Winslet à l'affiche.
Oui, en tout cas, c'est un des premiers films qui m'a vraiment marqué, c'est Titanic. Ouais. Et je l'ai trouvé d'une beauté renversante et je trouve que c'est une immense actrice. Et il y a pas longtemps, j'ai revu sa série Mare of Easttown, où en fait, elle incarne des personnages de femmes qui sont forts et qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir.
Ouais, et Meryl Streep aussi, j'imagine, qui doit faire écho, non ?
Oui, bien sûr, mais pour moi, Kate Winslet, ça reste number one.
Est-ce qu'il y a de la place pour deux
sur la planche ?
Il y a de la place pour deux, ça va. Ouais. J'ai un petit peu de place pour Meryl, quand même.
Et vous, Mélanie ?
Moi, j'aime beaucoup les frères Cohen. J'aime leur humour, leur direction d'acteur, leurs acteurs, leurs actrices. J'adore.
Le dernier en date.
Et la fin du film aussi. Non, mais la fin des films des frères Cohen, ça reste toujours en suspens, c'est-à-dire comme si on devait nous finir l'histoire.
Oui, c'est ça, mais j'aime bien aussi être un peu l'auteur, d'avoir l'impression de participer un peu à leur écriture.
Oui.
Simplement. Très humblement, oui.
Thank you,
il m'appelle encore.
Après, j'ai regardé, on n'a jamais crédité au générique.
C'est un nom d'emprunt pour les Américains.
Autre question, on va parler d'un fait divers, d'un ensemble de meurtres qui ont été commis entre 1995 et 2001. À chaque fois, des jeunes filles disparaissent dans une même ville, dans un même quartier. Tatiana, Mokhtaria, Marie-Hélène, Fatima. Trois d'entre elles ont été retrouvées mortes, dénudées. Deux ont eu les organes génitaux...
À la gare de Perpignan.
Ils ont été massacrés. J'arrive pas à le dire.
Non, mais c'est
les disparus de la gare, c'est une histoire tragiquement vraie.
Voilà, Mélanie, bonne réponse de Mélanie Douté. On en parle parce que les disparus de la gare de Perpignan.
Ouais.
Une histoire terrible, comme les faits divers peuvent nous en apporter, qui va être portée à l'écran.
Oui, on a tourné ça l'année dernière, à peu près en même temps que l'intruse. C'est réalisé par Virginie Sauveur. Donc, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et en fait, pendant ces années-là, il y a eu à peu près 6 jeunes filles entre 18 et 20 ans, à peu près typées de la même façon.
Toujours le même profil. Ouais.
Et elles ont disparu.
Et des ados. Hein.
Oui, des jeunes filles. Ouais. Et elles ont disparu. Et on a retrouvé, on les a toutes retrouvées, sauf Tatiana Andujar, dont je joue la maman dans la fiction.
On l'a toutes retrouvées mortes.
On les a toutes retrouvées dans un sale état.
Oui, je crois. Ouais.
Ça a été élucidé.
Oui,
il y a eu un
partagé par. Ces crimes ont été partagés par deux hommes absolument sympathiques.
Et jouer donc la mère d'une jeune fille qui a disparu, se mettre dans cette histoire-là qui là encore est tragique. On peut retrouver plein de coupures de journaux. On peut se documenter en fait sur ce drame-là.
Oui, j'ai rencontré Marie-Josée. Ouais.
La mère donc.
Oui, la mère de Tatiana qui cherche encore sa fille.
Ah, c'est terrible.
Oh, ouais, c'est terrible. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
Ouais.
Non, mais justement, ces rencontres, est-ce qu'elles sont utiles à l'interprétation? Est-ce qu'elles sont gênantes parce qu'on ne sait pas quoi dire? Comment
De toute façon, je pense qu'elle est entourée de gens disant, qui ne savent pas quoi dire.
Au revoir, donc, courage. Enfin, il y a des phrases, il y a des mots comme ça où on se dit.
C'est ce qu'on dit, ouais.
Mais je pense que tous les bons mots sincères sont bons à prendre. Ça lui donne du courage et de la force. Elle continue à être très active dans ses recherches.
J'entends, mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans le travail d'actrice?
Moi, j'avais déjà commencé à travailler. Et puis, comme elle est très active, je m'étais énormément documentée. Donc, mais après, je ne cherche pas à copier le combat de cette femme. Évidemment, elle a toute mon admiration et jamais je serai à la hauteur de...
Pourtant, elle va chercher à se reconnaître en vous voyant.
Mais moi, mon travail, c'est de continuer à faire parler de cette affaire. Et que c'est passé dans le cold case il n'y a même pas un an, donc en espérant que ça soit que l'enquête aboutisse.
Ouais.
Ça sert aussi à ça, la fiction, le cinéma, les œuvres d'art en général, faire réfléchir et apporter une discussion, une réflexion.
Bah oui, de donner son point de vue sur la vie, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Ouais, c'est important. C'est important et... Ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre.
Mais... Non, et justement, dans les choix, dans ce que vous recevez, on parlait tout à l'heure de l'intermittence. Alors, vous en êtes où
de bah écoutez, je perds mes droits en juin, ça va.
À vous renouveler en juin, donc.
Non, mais non.
Non, mais
d'ici là, d'autres projets.
Oui, bah on espère. Après, oui, c'est vrai qu'il faut faire un... C'est dur, après un personnage comme ça, de revenir avec quelque chose qui nous plaît, un personnage qui nous plaît autant. Mais les choses suivent leur cours. Rien de sûr pour l'instant. Donc
dans les rôles que vous avez interprétés, que ce soit au cinéma avec Monsieur et Madame Adelman ou encore pour l'honneur, je me souviens de la femme de rugby, hein, c'est
oui,
ça
c'est ça.
Dans le film de Philippe Guillard. le plaisir est de jouer justement des choses extrêmement différentes où il y a des moments où on se conforte à être un personnage...
Je fais ce métier en partie pour tuer la routine, donc rencontrer des personnes différentes, des personnages, des genres, des choses différentes. Donc moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Et après, encore une fois, tant que le personnage me plaît, que l'histoire me plaît, le metteur en scène, la metteuse en scène, moi, je fonce.
Que ce soit au cinéma ou au théâtre.
Oui, cinéma, théâtre, télé, enfin peu importe.
Avec qui vous aimeriez jouer?
Marion Cotillard, qui reste pour moi une très grande actrice française et je suis très admirative de tout son travail parce que je trouve que c'est une comédienne qui, ça se voit qu'elle travaille et qu'elle se donne corps et âme à un personnage et moi j'essaye de tendre à ça en tout cas et c'est pour ça qu'elle a mon admiration.
Et en termes de réalisateur ou autrice
Je dirais... Justine Triet, je vous sors des grands noms comme ça, mais parce que pour moi,
c'est des références. On voit immédiatement.
Voilà, vous voyez qui c'est, mais oui, ce sont des gens qui.
On est toujours un peu dans le thriller et dans la tension, hein, quand même.
Oui, c'est ça, mais pour moi, ça se voit aussi qu'elle a une précision. Du coup, j'ai regardé beaucoup de ses interviews et ça se voit qu'elle est très précise dans ce qu'elle veut. Et moi, c'est ça que j'aime dans le travail, c'est que rien ne soit laissé au hasard. Et c'est ce qu'on retrouve aussi en partie dans l'intruse et dans le travail de Shirley Monsarrat, la réalisatrice.
Mélanie Douté, donc, vous avez tourné... Elle est tournée déjà, cette série, Les Disparus de la Gare. Hein,
oui.
Avec, à vos côtés, Hugo Beckert, Patrick Timsit, Camille Razin, Ludovic Bertillot, Kevin Azaïs, Arnaud Chollet et Yannick Choira, entre autres. Réalisé par Virginie Sauveur. D'autres envies, d'autres projets? On est en début retourner au théâtre. On parlait de la contrainte de, du théâtre tout à l'heure. Est-ce que
mais quand même très envie d'y retourner aussi.
C'est vrai ?
Ah ouais, ouais. Ça fait longtemps, là. Ça doit faire trois... Bah, la dernière fois, c'était avec Michel Faux. Donc oui, j'ai envie d'y retourner.
C'était au Bouffe, non ?
Exactement, au Bouffe parisien.
Avec un décor de ouf.
Ouais, c'était le décor du frère de Michel Faux.
C'est vrai. Et vous aimeriez jouer un classique ? Vous aimeriez jouer une pièce d'époque, en costume ? Ou au contraire, quelque chose de très moderne ? Quelles sont vos envies ? Parce qu'il faut... C'est bien aussi d'aller vers les envies de ceux qui vous proposent, mais peut-être il faut les solliciter aussi.
Oui, c'est vrai. Faudrait solliciter. Ça, c'est en train de se mettre en place dans ma tête. Donc, le temps que ça arrive, je serai peut-être décédée.
C'est bien de rester positif.
C'est bien de ne pas vouloir répondre à une question aussi.
Non, mais je vous en supplie, appelez Mélanie Douté là, parce qu'il ne faut pas qu'elle.
Et passer de l'autre côté de la caméra.
Ah. Oui, ça aussi, ça. Non, mais beaucoup, je vous dis beaucoup d'envie, je suis très gourmande.
Mais pour ça, vous restez vivante, évidemment.
Et voilà.
Surtout que Lisa vous dirait que vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps encore.
Pêchez-vous, vous changez la pile.
Et si vous réalisez, vous réaliseriez une comédie ou au contraire un film
Ah, si Dieu me prête vie, oui, bien sûr.
Un film social ou
non,
un film d'angoisse.
Non, mais tout à l'heure, je parlais des frères Cohen. J'aime bien leur absurdie. Et j'aime bien, du coup, que ce soit pas forcément classifiable. Voilà. Puis faire rire, pas forcément en faisant des effets de manche, quoi.
L'intruse ce soir et mercredi prochain, deux épisodes chaque fois, déjà l'intégralité sur France.tv, une réussite parce que c'est un thriller qui va faire écho chez beaucoup de familles et peut-être de filles au père aussi, parce que la situation, est-ce qu'elle est invivable du côté de la fille au père ou du côté de la famille, c'est ce que vous découvrirez ce soir sur France 2. Daniel Morin, des
excuses à présent. Oui, alors déjà désolé pour toutes nos auditrices qui actuellement recherchent une nounou et qui à la suite de l'émission n'ont plus du tout confiance. Alors, c'est vrai, comme le dit Leïla, c'est trop dangereux, jamais une de ces crevures elle touche à ma gosse. Ok, Leïla, c'est un peu extrême, mais bon. En revanche, j'ai une solution, c'est le tandem Oldelaf, Lisa Delmoitier en duo. Alors, c'est pas rassurant, je suis d'accord, mais au moins les gosses sauront que dans la vie, la vraie, tout peut être très effrayant. Désolé pour tous ceux qui aiment l'audace et l'originalité et qui étaient d'accord avec Nagui. La série aurait été bien mieux si on l'avait intitulée L'Incrusteuse. Alors, c'est pas français.
Jamais.
Nagui, il est dans le déni en plus. Alors, c'est pas français, mais c'est limpide. On comprend tout, mon Nagui. C'est précis. J'ai même envie de dire, on est dans la précisure. Ouais. Bon. Désolé pour tous nos auditeurs fans de foot et supporters de l'équipe de France. Auditeurs choqués, blackboulés et même tambourinés quand Bruno PQ
a rappelé. Waouh, c'est insultant.
C'était un chier, pardon. Désolé, rappelez la défaite des Bleus face à la suite. Rassurez-vous, justice sera faite. Sa tête vient d'être mise à prix par un certain Monsieur Guy. 5000 euros sur présentation de la tête de l'humoriste suisse.
Arrête.
Petit coup de main, il habite 45 rue du Traître, code 18B49, 4e étage. Il habite seul.
Remettez toutes les lettres dans l'ordre que vous voudrez.
Voilà, maintenant c'est à vous de jouer.
Ah, c'était des chiffres et des lettres.
Merci,
au bout du rouleau. Enfin, quand je dis au bout du rouleau, c'est pas une vanne
supplémentaire. Mais tu mets la batterie, là.
Merci mille fois et bravo.
Merci.
On vous adore. J'ai fait beaucoup de compliments sur le jeu de Lucie. Évidemment, Mélanie. Vous savez à quel point on vous aime. Passez une belle journée. Demain, Hélène Vincent et Nia Barou seront là pour parler du film On ira, que l'on a adoré également. Passez une belle journée.